Ah bah la patron m'a convaincu.
Ben, je vous en prie, asseyez-vous.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Quelle est votre principale motivation ?
Chasser en recrutement. Action de contacter un candidat pour lui proposer une opportunité professionnelle. Pourtant, on voit trop souvent des retours comme
« Oh, encore un recruteur ! Il a vraiment rien compris à ce que je fais, lui !»
Salut, je suis Stan, recruteur chez Manify, et vous écoutez « Écrire pour recruter », le podcast sur l'approche candidat de l'agence de recrutement et Manify. Une vingtaine de minutes, un expert et un conseil concret pour améliorer tes messages d'approche. Et aujourd'hui, c'est Alexandra Martel qui est à mes côtés. Grand nom dans le domaine du copywriting, je ne vais pas cacher ma joie, c'est un énorme plaisir de discuter avec Alexandra. Elle n'est pas spécialement dans le domaine du RH à la base, mais il suffit vraiment de quelques secondes pour comprendre à quel point sa précieuse expertise en copywriting peut s'appliquer à celui du recrutement. Et aujourd'hui, sujet inédit, on parle de dissonance cognitive pour capter l'attention de tes candidats. Vraiment, la technique est folle et redoutable pour augmenter ton taux de réponse, et on peut l'appliquer vraiment très facilement et rapidement dans ses approches. Je te laisse écouter cette discussion. Salut Alexandra, comment tu vas aujourd'hui?
Ça va super bien, contente d'être là. Et toi, ça va bien?
Ça va très bien. Merci, très heureux aussi d'être avec toi. Et vraiment, sans plus attendre, j'aimerais te demander, c'est quoi toi le meilleur conseil pour finalement contacter, on va dire, un inconnu?
Un inconnu. Le meilleur conseil est un peu cliché, mais c'est d'avoir une approche qui se démarque des autres. Hein. On va commencer comme ça.
Ça aide.
Les gens aujourd'hui sont très sollicités, même en recrutement, et donc on entre dans un contexte où le levier, disons, la balance du pouvoir n'est plus la même, c'est-à-dire que le gros bout du bâton est vraiment dans la main des employés, ce qui fait en sorte que c'est assez facile pour eux de jeter du revers de la main un message qui n'a pas capté leur attention ou qui leur a pas donné envie d'en savoir plus, etc., etc. Donc, vraiment, à mon avis, c'est d'oser sortir des approches un peu plus traditionnelles pour tester des choses qui vont surprendre, bousculer un peu les gens et faire en sorte qu'ils vont vraiment se souvenir, avoir envie de continuer d'échanger avec toi.
Ok, ouais, totalement. C'est sûr que dans le flow aujourd'hui, les candidats reçoivent tellement de messages, que ce soit à travers LinkedIn ou par email à la journée. Il faut sortir du lot, tu sais, comme forcément. Et du coup, concrètement, ça serait quoi que tu pourrais recommander à un recruteur pour se démarquer et capter l'attention dans ses premiers messages, dans tout ce flow justement d'autres messages qu'il reçoit dans la journée?
Mais en fait, pour aujourd'hui, j'ai bien pensé à ce que j'avais envie d'apporter à ton audience et je me suis dit que quelque chose qui serait vraiment intéressant, ce serait de parler de dissonance cognitive.
Parfait.
Qui est à la base vraiment une théorie de la psychologie, mais quand on la comprend et qu'on la maîtrise, ça peut permettre de faire des approches qui sont extrêmement efficaces en copywriting. Donc, on va en parler. Donc, le copywriting... Voilà.
L'écriture persuasive.
Voilà, la rédaction persuasive. Donc, la dissonance cognitive, c'est vraiment, en fait, une théorie assez vieille maintenant, qui est très, très enseignée en psycho. Et l'idée, en fait, de la dissonance cognitive, à la base, c'est que notre cerveau cherche l'inverse de la dissonance, donc cherche la consonance, la cohérence, l'harmonie entre ses croyances. OK? Ça a beaucoup été étudié chez les fumeurs, entre autres, parce que, bon, il y a plein de pays depuis plusieurs dizaines d'années maintenant qui essaient de réduire la quantité de personnes qui fument. On sait pourquoi, parce que, entre autres, on sait maintenant que ça cause toutes sortes de problèmes de santé. Et donc, il y a plusieurs campagnes marketing qui ont été faites pour tenter de changer ce comportement-là chez les fumeurs, hein, de faire en sorte que les fumeurs arrêtent de fumer. Et en fait, pourquoi c'est le fun d'étudier la dissonance cognitive chez les fumeurs? Ben, c'est que les fumeurs vont automatiquement vivre de la dissonance cognitive. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux croyances qui entrent en contradiction dans leur esprit en même temps, n'est-ce pas? La croyance numéro un, c'est que ils aiment fumer et que fumer, ben c'est le fun, ça les détend. Et la croyance numéro deux, c'est que fumer, ça donne le cancer. Et donc, pour le cerveau, de faire coexister ces deux croyances-là, c'est très inconfortable. n'est-ce pas? Ouais. C'est pour ça qu'il y a des fumeurs qui vont arrêter de fumer. Donc, quand on a commencé, les fumeurs là, qui savaient pas que ça causait le cancer, quand on a su que ça causait le cancer, que c'est devenu de plus en plus répandu dans la culture, il y a plein de fumeurs qui ont cessé de fumer. Mais il y en a qui ont continué. Puis c'est intéressant de se demander comment ça se fait qu'il y en a qui ont poursuivi. T'sais, qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit pour qu'ils soient capables de réconcilier ces deux croyances-là qui sont opposées. Et là, le cerveau va utiliser toutes sortes de stratagèmes, en fait, pour ramener la cohérence entre ses croyances. Donc, je continue mon exemple du fumeur, et là, tu vas voir, on va tout ramener ça au copywriting tantôt. Mais le fumeur peut, par exemple, ajouter d'autres croyances qui viennent amoindrir celles que la fumée cause le cancer. Par exemple, « De nos jours, toutes donnent le cancer. C'est mon seul vice. » Ça, c'est un bon exemple de croyance qui va aider à ramener la cohérence, à soulager l'inconfort que ça leur apporte de faire quelque chose qui est contradictoire, en fait. Sinon, on peut avoir aussi d'autres... changer un tout petit peu leur comportement. Par exemple, t'as des gens qui vont devenir des fumeurs sociaux. Donc, moi, je fume, mais juste quand je suis en compagnie d'autres personnes. Donc, on va venir comme ça trouver des stratagèmes pour ramener l'équilibre dans nos croyances. Bon. Là où ça nous intéresse en copywriting, c'est que cet état de dissonance-là, l'inconfort qu'on ressent quand une de nos croyances est challengée, ok, c'est un outil de motivation de l'attention qui est extrêmement puissant. Et c'est souvent utilisé pour capter l'attention des gens. Je te donne un exemple. Si toi, tu as l'impression en ce moment que, je sais pas moi, recruter, c'est vraiment difficile. OK? Mmh. Le recrutement en ce moment, c'est difficile. Et que là, je fais une publication, par exemple, dont le titre est « Recruter n'aura jamais été aussi facile qu'en 2022 ». Qu'est-ce qui se passe pour toi?
Ça fait pas de sens.
Ça vient s'opposer à une croyance très forte que tu as déjà que le recrutement est difficile. Et donc, ça te crée un inconfort, en fait. Et tu vas avoir envie de lire la suite de l'article pour comprendre pourquoi est-ce que ta croyance est challengée comme ça.
OK. OK, ouais. C'est-à-dire que ouais, c'est une technique que je connaissais pas du tout. C'est fou, en vrai. C'est vrai que c'est très efficace. Et donc, concrètement, c'est un peu quoi les informations dont tu as besoin pour pouvoir créer cette dissonance cognitive-là?
En fait, et c'est là qu'on rentre vraiment dans le rôle du recruteur, pour être capable de créer cette dissonance cognitive-là, il faut que tu connaisses très bien ta cible. Ouais. Donc, à qui tu t'adresses et que tu fasses un peu l'inventaire des croyances que cette personne-là pourrait avoir. Par exemple, je sais pas, moi... Tu sais, tu connais beaucoup mieux l'univers du recrutement que moi, mais mets-moi un scénario, là. Mettons, qui on essaie de recruter?
Par exemple, souvent, là, moi, ce que je travaille généralement, c'est des développeurs, par exemple. C'est des développeurs, c'est vraiment un type de profil de candidat qui est très recherché aujourd'hui.
Oui.
Regarde, une motivation qui est très importante chez les développeurs, par exemple, c'est de ne pas être en retard technologiquement. C'est-à-dire, ils doivent toujours être dans un environnement, une entreprise qui leur permet d'être à jour technologiquement dans ce qu'ils utilisent tout simplement au quotidien. Est-ce que tu as peut-être une idée de comment on pourrait créer une dissonance cognitive avec, si j'ai moi, mon client, par exemple, permettrait de travailler sur les dernières technologies, par exemple?
Absolument. Par exemple, faire un titre de recherche d'emploi pour une annonce, où au lieu de dire « on recherche un développeur qui connaît tel langage », tu dis quelque chose comme « on cherche un développeur qui connaît des vieilles affaires ». Puis là, tu nommes des espèces de vieux, des espèces de reliques qui sont plus utilisées. Puis une fois rendu dans ton annonce, ce que tu expliques, c'est que en fait, tu cherches quelqu'un qui a beaucoup d'expérience puis qui a su s'adapter. Donc, qui connaissait ces choses-là par le passé, mais qui a évolué. Ce que ça va faire, c'est que le titre de l'annonce va activer la dissonance cognitive. La personne va se dire, voyons, pourquoi est-ce que ils cherchent ça? Ils vont cliquer et après, ils vont voir le reste de ton texte qui doit, à ce moment-là, venir rebalancer, en fait, ce que tu as avancé. Par exemple, pour mon article dont je donnais l'exemple tantôt que j'appellerais « Le recrutement n'a jamais été aussi facile qu'en 2022 », ben, je pourrais expliquer que même si le recrutement est hyper difficile, ça fait en sorte qu'en fait, qu'on se retrouve avec des meilleurs candidats ou que quand quelqu'un décide de travailler pour nous, il reste plus longtemps parce qu'on a mieux choisi. Ou tu sais, trouver un angle comme ça pour expliquer ce que j'avance par la suite. Tu me suis?
Ouais, je te suis totalement, surtout qu'il y a... on en a parlé en plus précédemment, mais c'est extrêmement important de rester cohérent, de ne pas faire une fausse promesse, par exemple, à la personne, parce que sinon elle sera totalement juste frustrée à la fin du texte.
Donc ça, absolument.
Ça toujours, ouais, même si le titre sera là pour attirer l'attention, mais très important de contrebalancer derrière et en fait de montrer ça comme un bénéfice en fait, au final.
Absolument. En fait, c'est juste de subvertir un peu la manière dont tu aurais approché le sujet en utilisant une approche qui est un petit peu à l'envers, en fait, à contrario. Ouais. Mais oui, tu sais, pour l'exemple de ton développeur, il y aurait aussi peut-être, je sais pas moi... tu sais, en ce moment, les développeurs, ils sont très en demande, ils reçoivent beaucoup de sollicitations. Peut-être, on n'a pas nécessairement envie de travailler avec toi.
Ça serait totalement à contresens.
C'est complètement à contresens. La personne a fait « Voyons, pourquoi il me dit ça? » Parce que nous, chez nous, on veut pas travailler avec n'importe qui. On sait que les développeurs sont très en demande, mais on cherche quand même à chercher des gens qui partagent notre vision, nanana. Mais tu vois, là, t'amènes quelque chose qui vient montrer tes valeurs, qui vient montrer c'est quoi l'entreprise. Sauf que l'accroche est tellement inattendue que la personne à qui t'as écrit va clairement lire le reste de ton message.
OK. Et surtout que c'est vraiment... le style de technique et de rédaction qui n'est pas du tout utilisé dans le contexte aujourd'hui, tu sais, en recrutement, qui pourrait, je pense, surtout faire son effet. Je suis curieux, j'imagine que tu as dû utiliser ça plus toi dans le cadre de prospects où tu es justement pour vendre tes services. Comment tu définis les motivations, par exemple, avec tes prospects? Peut-être ça sera intéressant, on pourra ramener ça au recrutement plus tard. Parce que justement, cette dissonance demande d'avoir quand même cette connaissance assez profonde de la motivation de la personne.
Absolument.
De ton côté.
Absolument. Tu sais, quand on est copywriter, moi, en plus, je l'ai fait souvent pour des clients. Ça implique souvent de faire quand même, d'avoir des grandes discussions avec mon client, mais aussi, moi, j'aimais beaucoup interviewer les meilleurs clients de mes clients. Donc, dans ton cas, si tu as déjà quelqu'un dans l'entreprise qui exerce ce rôle-là, peut-être que c'est la meilleure source d'idées pour ce genre d'approche, parce que tu peux avoir une discussion de 10-15 minutes avec cette personne-là. Tu sais, c'était quoi? Qu'est-ce que tu recherchais exactement quand tu as choisi de travailler avec nous? C'est quoi qui t'a attiré? C'était quoi les croyances que tu avais? Qu'est-ce qui t'a surpris quand t'es arrivé ici? Tu sais, qu'est-ce que tu t'y attendais pas que ce soit comme ça? Tu sais, poser ce genre de questions-là pour aller chercher des croyances, des idées préconçues dans la tête des gens, c'est vraiment le mieux. Donc, si le recruteur est capable d'avoir un contact humain, soit avec le dirigeant, soit avec quelqu'un là, qui connaît l'entreprise, c'est préférable. Parce qu'en effet, ça nécessite quand même une connaissance, une empathie de à qui je m'adresse, qu'est-ce qui se passe. Je te dirais aussi que c'est le genre d'approche qui fonctionnera pas nécessairement pour une entreprise qui n'a pas de vision, qui a pas de, tu sais, qui peut pas finalement tourner ça au positif par la suite. Tu me suis?
Ouais, je te suis totalement. Il faut que l'entreprise soit déjà établie et connaisse ses forces. Je me permets justement de ramener ça, tu sais, dans le domaine du recrutement, comme chez Manify, nous, c'est beaucoup pendant la prise de besoin, quand tu es en contact avec le manager et certains membres de l'équipe, où là, justement, tu peux définir, OK, c'est quoi vos niveaux de séduction? Et même un tips que je peux donner et que j'utilise aussi régulièrement, il y a des sites comme Glassdoor, ou sinon, il y en a d'autres, qui recueillent, en fait, les avis des anciens candidats ou des employés actuels qui donnent sur une entreprise, tu sais. Et je rebondis sur quelque chose, mais utiliser les mots que la personne peut, genre, noter dans les commentaires, réutiliser les expressions, le langage, et l'avantage qu'ils présentent, c'est sur cette plateforme, sur Glassdoor, enfin le commentaire qu'ils mettent sur l'entreprise, ça peut être très puissant aussi à utiliser derrière, et ça permet de bien connaître les motivations des personnes.
Puis là, tu me donnes plein d'idées, tu sais, admettons que quelque chose que t'entends souvent, c'est « j'ai besoin de flexibilité, moi j'aime les emplois flexibles ». Mais là, ta dissonance cognitive, tu peux l'activer en disant « on cherche quelqu'un, mais ici on est zéro flexible ». On n'est pas flexible sur nos valeurs, notre sens de la rigueur. Puis là, tu montres c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi les principes qui sont importants. Par contre, nos horaires sont flexibles.
Voilà. C'est vrai que ça serait un twist fou, en fait.
Ah ouais, c'est vraiment... Moi j'adore cette façon de faire-là, parce que ça permet d'être créatif puis de surprendre, en fait, le lecteur. Puis cette espèce d'émotion-là de surprise, de « Ah, vous m'avez eu, mais le contenu est vraiment pertinent puis ça me parle », ça crée un petit sentiment d'émerveillement.
totalement.
Ouais. Ouais, qui fait que les gens, ils ont envie, en fait, de vous contacter. Puis ça donne aussi une perception comme quoi la marque est drôle, en fait. Tu sais, est capable de faire preuve d'intelligence, d'humour, etc., etc. Puis t'as mentionné tantôt que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent en recrutement, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Moi, j'ai toujours trouvé que les conseils de copywriting sont plus efficaces dans des domaines traditionnels où ils sont pas utilisés. Parce qu'en fait, dans un domaine comme le mien, quand tu fais du marketing, tout le monde connaît la rédaction persuasive. Donc, faut que tu joues des pieds et des mains pour être original, et c'est vraiment plus complexe, tu sais, de te démarquer. Alors que si tu arrives, moi j'ai eu des clients dans des milieux plus traditionnels, par exemple juridiques ou des comptables ou un garage. J'ai un garage qui répare des camions, genre des Dodge Ram, tu sais, dans une de mes formations en ce moment. Quand tu es dans un marché qui est plus traditionnel comme ça, où ces techniques-là sont pas encore employées, l'impact que ça a d'être parmi les premiers à utiliser ces techniques-là est vraiment décuplé. Là, c'est génial, tu te démarques énormément de tes compétiteurs.
Non, c'est faux. Et clairement, au recrutement, on a encore beaucoup de possibilités pour justement mettre ça en place, t'sais, pour mettre le copywriting et l'utiliser, t'sais, pour capter l'attention des candidats. Et cette technique est vraiment très folle. Hâte de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore assez essayé. Donc, non, clairement.
Puis là, il faut que tu m'en parles. Si tu l'essaies, je veux savoir.
Ouais, bah, totalement, je vais essayer ça. En plus, c'est cool. On a pu faire des exemples aussi live, comme entre nous. C'est vrai que je te dirais un petit peu le retour des candidats. C'est vrai que pour le coup, c'est souvent quelque chose que j'essaye de voir, tu sais, après comment la personne te répond, parce que ça soit positif ou négatif. Engager une discussion, c'est ce que je dis souvent en recrutement, juste avoir une réponse du candidat va te donner des pistes aussi sur ton poste, comment mieux le chercher, comment peut-être la personne aura aussi des recommandations de personnes, de lui-même, des collègues, ce qui est souvent des fois plus efficace. On avait fait des tests chez Manify, les personnes préfèrent être contactées par finalement des collègues ou par des supérieurs que par un recruteur en soi. Tu sais, c'est un peu le biais où on préfère être recommandé par un ami que par un inconnu.
Ouais. Ben parce qu'il y a une relation de confiance qui existe déjà.
Totalement, totalement. Donc, c'est ça.
Toujours le défi quand on fait de la prospection à froid, tu sais, c'est pareil en marketing.
C'est vrai que ça doit être difficile aussi, j'imagine même pas. Mais donc, ça serait le bénéfice principal, ça serait vraiment capter l'attention dès le début au maximum et ainsi optimiser le nombre de retours.
Absolument. Puis je te dirais que l'autre impact que ça a de s'intéresser à ce sujet-là, c'est que tu es obligé de réfléchir aux croyances de la personne à qui tu t'adresses.
OK.
Puis les croyances des gens à qui on s'adresse, c'est hyper important. C'est ça qui va déterminer souvent si c'est un bon fit client quand moi je choisis mes clients, mais pour un employeur. C'est aussi ça qui va déterminer si vous allez avoir un bon fit employeur-employé, tu sais. Ça fait vraiment partie des... C'est tellement important de faire preuve d'empathie puis de se questionner sur qu'est-ce qui est important pour mon candidat, qu'est-ce qui est important pour nous, puis comment on peut les réconcilier, qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'entreprise, qu'est-ce qui est important pour mes clients, comment on peut les réconcilier. Puis je trouve que cette technique-là, c'est comme un bon premier pas pour commencer à penser en termes de croyances. Parce qu'après, là, on peut vraiment aborder les croyances de toutes sortes de façons. T'sais, une fois qu'on a identifié, par exemple, là, je te parlais de la flexibilité tantôt. T'sais, mon exemple avec la flexibilité. Utiliser cette accroche-là, ben, ça obligerait l'entreprise en question à se questionner sur quoi on est inflexible. Qu'est-ce qui est un non négociable pour nous dans notre entreprise? Qu'est-ce qui est hyper important? Puis après, ça te fait des piliers sur lesquels communiquer ta marque employeur, ça te fait des... Tu sais, c'est vraiment... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est une stratégie qui nécessite une réflexion en amont qui va amener des effets positifs un peu partout par la suite. Je trouve que c'est un bon premier pas pour commencer à brainstormer plus large que juste « Ah, j'utilise des formules puis des accroches un peu clickbait qui sont pas empathiques, qui ont pas été réfléchies. » Tu me suis?
Je te suis, c'est... C'est la base d'une réflexion qui va te permettre de te donner des idées finalement que tu vas pouvoir mettre à plein d'endroits dans ta marque employeur et permettre finalement d'augmenter après tout simplement un peu ton attraction.
C'est ça. Ton attraction. Moi, pour choisir les croyances que je vais challenger avec la dissonance cognitive, ce que j'aime vraiment faire, là, c'est me poser la question. Moi, j'appelle ça les croyances primordiales. C'est quoi les croyances primordiales que mon client dans mon cas, dans votre cas, ce serait l'employé qu'on va recruter, doit absolument avoir pour être un fit. c'est quoi les croyances que je veux qu'il y ait déjà dans sa tête? Ça peut être des valeurs, ça peut être des attitudes, ça peut être, bon, toutes sortes de choses. Dans mon cas, il y aurait, par exemple, l'idée que tu es libre de choisir ton propre modèle d'affaires quand t'es travailleur autonome, l'idée que charger à l'heure c'est une mauvaise idée, l'idée que, bon, j'ai toutes sortes de croyances comme ça qui sont importantes pour moi dans mon contexte, on s'entend, d'entreprise. Si je vais plus large, le féminisme aussi, etc. Puis là, ça me permet après ça de générer des idées de comment je pourrais venir activer la dissonance cognitive de gens qui partagent ces valeurs-là.
Totalement. C'est, tu sais, pour revenir... On appelle ça la prise de besoin quand on discute avec les gestionnaires, tu sais. Il y a un background technique qu'on recherche. Tu sais, surtout si on rebondit un peu sur les développeurs, il y a des technologies que la personne doit avoir pour travailler dans ce poste. Mais quand tu creuses avec la personne, tu te rends compte qu'il y a aussi énormément de compétences interpersonnelles, tu sais. Une personne qui a de l'initiative ou une personne qui peut être, on dit, mature dans son code, je reprends pour l'exemple des développeurs. Et finalement, c'est un peu de cette motivation-là, quand tu comprends, tu sais, finalement, quel type de profil psychologique et quelle motivation, en fait, il recherche chez le candidat. Ça va être ces informations-là que tu vas pouvoir contacter, finalement, le marché. Et c'est même intéressant quand tu contactes le marché que des personnes te disent non, parce que finalement, ces personnes n'étaient juste pas faites pour la job, en fait, tout simplement.
Absolument.
Et de se concentrer que sur le type de profil qui, eux, t'ont dit oui et te permet de cerner au mieux ce profil psychologique, j'ai envie de dire, tu sais, qui lui fitera avec le job, hors le profil seulement de compétences.
Ah, c'est hyper intéressant. Puis même du côté des employés, c'est ça que les gens cherchent maintenant, tu sais. On cherche plus un emploi juste qu'on est compétent et capable d'exécuter. On cherche un travail dans lequel on va se réaliser. Fait que ça devient d'autant plus important de se questionner sur les croyances, en fait.
Ben, j'encourage, en tout cas, je crois que ça a été le but de la discussion, encourager les gens, en tout cas, qui s'intéressent de se questionner sur les croyances et quelles sont peut-être les motivations qui pourraient pousser les candidats à appliquer chez eux et les utiliser pour faire de la belle dissonance cognitive. Merci encore beaucoup pour
ça.
Pour
ça m'a fait grand plaisir. Si tu as des auditeurs qui s'aventurent à tester, tu me feras signe, ça va me faire plaisir d'aller voir ce qu'ils ont fait.
C'est un message. Si envoyez les retours à Alexandra, tu vas avoir beaucoup de retours. Merci encore pour tout ça, Alexandra.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le podcast Écrire pour recruter. Si vous voulez suivre le contenu de Alexandra ou approfondir le sujet de l'écriture persuasive en général, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn, Alexandra Martel. Son contenu est vraiment incroyable. Si vous voulez en apprendre davantage par contre sur le copywriting en recrutement et améliorer vos approches candidats, vous pouvez vous connecter à mon profil StanFolly. Surtout, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, allez suivre la page entreprise de Humanify. Merci encore pour votre écoute et prenez soin de vous.